Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine Parcours Grand Débat. André Bourguet au micro. Le MAN de la région de Montpellier, Mouvement pour une alternative non violente, a reçu récemment M. Jean-Marie Muller, fondateur du mouvement et grand acteur de l'action non violente, pour une soirée de réflexion, conférence et entretien. Jean-Marie Muller vient en effet d'écrire un livre « Désarmer les dieux », sous-titré « Le christianisme et l'islam au regard de la non-violence ». Aussi a-t-il intitulé son intervention « Religion, violence, non-violence ». De la longue soirée que vous imaginez, nous retiendrons pour cette petite heure un raccourci des propos de Jean-Marie Muller, puis de l'essentiel du débat qu'ils ont provoqué. Jean-Marie Muller.
Bonsoir à toutes et à tous. Si vous me le permettez, je vais d'abord traiter de la non-violence avant de traiter des religions. Je vais en quelque sorte inverser l'ordre des choses telles qu'elles sont présentées dans le titre. Car je crois qu'en effet, si nous voulons regarder les religions par rapport à l'exigence de non-violence, il importe que nous soyons bien d'accord sur la signification de la non-violence. Et pour une part essentielle, je me référerai à la pensée et à l'action de Gandhi, à la fois dans la réflexion philosophique sur la non-violence et dans la réflexion stratégique sur la non-violence. Je ne sais pas si vous le savez, le 2 octobre a été déclarée Journée internationale de la non-violence. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les considérants qui justifient cette décision de l'Assemblée générale des Nations unies, il est affirmé, je cite, « la pertinence universelle du principe de non-violence ». La formule est étonnante, d'autant plus étonnante que ceux qui l'ont signée sont les représentants des États, qui ne nous ont pas habitués à tenir régulièrement un tel langage. Et en même temps, il est clair que nos sociétés sont dominées par ce que j'appellerais l'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable. Si bien que nos cultures, nos traditions n'ont pratiquement donné aucune place à la non-violence. Nous n'avons pas appris la langue de la non-violence. Si bien que nous percevons généralement la non-violence à travers de multiples confusions. Et dans un premier temps, il nous appartient de dépasser ces équivalences. Et la violence, donc, apparaît comme étant une nécessité pour agir dans l'histoire. Elle apparaît une exigence du réalisme, politique notamment. Et dès lors, la non-violence va apparaître comme une forme d'un idéalisme incapable de faire face aux nécessités de l'histoire. Et justement, je crois que ce mot de violence, il a quantité de signification. Alors, je crois qu'il faut faire, dans un premier temps, une clarification conceptuelle. Et je distinguerai ce que nous avons trop souvent l'habitude de confondre. Le conflit, l'agressivité, la lutte, la force et la violence proprement dite. Et d'emblée, je précise que le nom de la non-violence ne s'oppose ni au conflit, ni à l'agressivité, ni à la lutte, ni à la force. Alors le conflit, bien, je crois que c'est une banalité de dire que l'être humain est un être de relation et que le plus souvent, notre première relation à l'autre est une relation conflictuelle. Celui qui s'approche un peu trop près de moi, alors que je ne l'ai pas invité, pour peu qu'il semble avoir une langue différente de la nôtre, une culture différente de la nôtre, finalement, nous risquons de le ressentir comme une menace, comme celui qui vient menacer le territoire que je me suis approprié. Et ce conflit, nous risquons d'en avoir peur. et de le fuir, ce qui n'est pas la meilleure manière de le résoudre. Donc il nous faut, je dirais, et c'est ce que fait la non-violence, réhabiliter le conflit. Car c'est à travers le conflit que je vais pouvoir construire avec l'autre une relation de justice. Je vais pouvoir faire reconnaître mes droits et reconnaître les droits de l'autre. Je crois qu'il faudrait aussi, même dans les écoles, apprendre le conflit et pas seulement l'histoire et la géographie. Apprendre le conflit aux enfants à partir des conflits qu'ils vivent avec les autres dans les cours de récréation, dans les écoles. Parce que vous connaissez l'histoire de deux enfants dans une même pièce avec 10 jouets à leur disposition. Le premier enfant s'approprie un jouet que devinez-vous que le second enfant va désirer. Si mes calculs sont justes, mais vous me corrigerez, il lui reste 9 jouets à sa disposition, tout aussi jolis les uns que les autres. Mais le second enfant, qui probablement n'a pas fini la lecture intégrale de René Girard, va intérioriser l'idée que si le premier enfant s'est approprié ce jouet-là, c'est que c'est lui qui est le plus désirable. Et forcément, c'est ce jouet-là qu'il va désirer. Il va donc s'approcher du premier enfant et tenter de lui arracher le jouet. Leur relation va devenir rivalité pure et probablement violente dans la mesure de leurs moyens. Coup de pied, coup de poing, cri. Alors, quand je vais dans des classes de jeunes, j'essaie de leur parler de tout cela et je leur dis que se passe-t-il que lorsque vous êtes désirez en même temps un même objet, quelles seraient les solutions? Et ils comprennent très bien, ils inventent les solutions. Par exemple, s'ils veulent en même temps manger la même pomme, on peut déjà couper la pomme en deux, c'est ce qui s'appelle couper la poire en deux. Non. Ou bien alors aller trouver une autre pomme ou un autre fruit, un équivalent fonctionnel de la pomme. Ou bien alors, si c'est un jouet, jouer à tour de rôle ou jouer ensemble. Enfin, parler, dialoguer, trouver un compromis à travers lequel ils seront gagnants-gagnants. Ils comprennent bien que s'ils utilisent la violence, ils risquent d'être perdants-perdants. Donc trouver... Alors, ils n'ont pas non plus le mot de médiation, forcément, qui leur vient spontanément, mais souvent ils disent, on va demander à un adulte de venir. Et je crois que la médiation est en effet un des moyens de la résolution non violente des conflits, non seulement dans la cour d'école, mais dans les conflits de voisinage, dans les conflits politiques, et même dans les conflits internationaux. Je ne sais pas si vous connaissez César Chavez, qui était le leader des ouvriers agricoles aux États-Unis. Et il a mené une lutte tout à fait remarquable pour créer un syndicat des ouvriers agricoles. Et il a contraint les propriétaires terriens à signer des accords syndicaux avec eux. Et lorsque je l'ai rencontré en 1973 aux États-Unis, déjà il avait signé des accords syndicaux avec quelques propriétaires terriens. Et je lui ai dit, César, si les propriétaires sont venus s'asseoir à côté de toi à la table de négociation, est-ce que c'est parce que tu as touché le cœur des propriétaires? Il m'a dit, oui, j'ai touché le cœur des propriétaires, parce que le cœur des propriétaires, c'est leur portefeuille, et le boycott a touché le portefeuille des propriétaires. Donc, vous voyez, le réalisme aussi. Il s'agit de créer des rapports de force, et pas simplement vouloir convaincre ou convertir l'autre. Et dans ce conflit, je devrais mettre en œuvre mon agressivité, bien sûr. Et là encore, n'assimilons pas l'agressivité à la violence. Il ne s'agit pas de refouler notre agressivité. Si je prends l'étymologie latine du mot agressivité, ad gradi, c'est avancer vers l'autre. Et si je prends l'image de l'esclave et du maître, l'esclave ne pourra revendiquer ses droits que s'il avance vers son maître et qu'il revendique sa liberté. Et c'est par exemple aussi toute l'action de Martin Luther King au début des années 60 aux États-Unis. Il a créé le conflit. On a trop souvent, là encore, identifié la lutte à la violence, notamment la lutte des classes. Si on lisait, d'un point de vue sociologique, les déclarations des évêques au début du 20e, à la fin du 19e, on verrait qu'ils condamnent la lutte des classes parce qu'elle préconise la violence et la haine et eux-mêmes voudraient faire l'apologie de l'amour des classes. Bien sûr, pourquoi pas. Mais enfin, ça nécessite déjà la justice
Et bien sûr que la lutte est une nécessité pour obtenir la justice.
Alors, je dirais, jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré la violence. La violence, nous la rencontrons lorsque, dans un conflit, l'un des deux protagonistes, et bien souvent les deux, parce que, justement, chacun va imiter la violence de l'autre, là encore, il ne s'agit plus de considérer l'autre comme un partenaire avec lequel il s'agit de rechercher un compromis, mais d'un adversaire qu'il s'agit de dominer, d'exclure, pour faire valoir mes droits.
Alors, on peut écrire des livres entiers pour définir la violence, et parfois succomber à cette tentation, mais on peut aussi définir la violence d'un seul mot.
La violence, c'est le viol de l'humanité de l'autre homme. Je dirais le viol de la dignité de l'humanité de l'autre homme. Très important aussi, c'est de souligner que non seulement la violence viole l'humanité de celui qui subit la violence, mais aussi de celui qui l'exerce. Et ce n'est pas une déclaration philosophique abstraite. Nous savons très bien que les militaires qui vivent des conflits violents dans tel ou tel territoire sont directement traumatisés profondément par la violence qu'ils exercent. On veut faire d'eux des héros, n'est-ce pas, qui défendent la civilisation contre la barbarie. Eux, sur le terrain, ils font l'expérience qu'ils sont des criminels. Et souvent, lorsqu'ils sont libérés, il faut qu'ils aillent en hôpital psychiatrique. Et le nombre de suicides parmi les anciens militaires américains du Vietnam est très important. Autrement dit, il s'agit de, à partir de cette perception radicalement négative de la violence, précisément, refuser toute légitimité, délégitimer la violence.
Et voilà la définition de la non-violence que nous propose Gandhi. La non-violence parfaite est l'absence totale de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit. Donc il va donner une définition en deux temps. Absence totale de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit. Ce qui laisse entendre que notre première réaction vis-à-vis de l'autre, elle risque non seulement d'être une réaction conflictuelle, mais une réaction de malveillance. Alors ça, c'est la première définition, la première partie de la définition de Gandhi. Absence totale de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit. Et il affirme ensuite, sous sa forme active, la non-violence s'exprime par la bienveillance à l'égard de tout ce qui vit. Absence totale de malveillance, volonté de bienveillance. Alors, c'est vrai que parfois, nous ne saurons pas faire autrement que d'utiliser certaines formes de violence pour éviter le pire. Je crois qu'il ne s'agit pas de préconiser une non-violence absolue. Mais même lorsque la violence nous apparaît nécessaire, elle n'en devient pas légitime pour autant. La nécessité de la violence n'efface pas l'obligation éthique de la non-violence. Alors, de même, ne disons pas que la violence est dans l'homme comme elle est partout dans la nature. Dans la nature, ce que nous appelons violente, qu'il faudra appeler puissance de destruction, obéit à la loi de la nécessité. Or, justement, dans la nature, l'homme est le seul à être capable de dépasser la loi de la nécessité pour accéder à la liberté. Donc, seul l'homme peut être capable de violence, parce que seul il est libre de décider d'être violent. Le meurtre est le propre de l'homme. Et justement, je crois que toute la vocation de l'homme, c'est de se libérer de la violence et d'arriver à surmonter cette tentation. Alors, je dirais que nous avons tous un double discernement à faire dans nos cultures, dans nos sociétés. C'est double discernement. D'abord, discerner tout ce qui, dans notre culture, dans nos traditions, dans notre société, et je dis déjà le mot, dans nos religions, justifie la violence comme un droit de l'homme. et de rompre avec tout ce qui justifie la violence comme un droit de l'homme. Alors, maintenant, un point important aussi, c'est que la non-violence, c'est pas simplement un principe philosophique, c'est aussi une stratégie. Je crois que le génie de Gandhi, c'est d'avoir réconcilié le réalisme politique et l'exigence éthique. C'est d'avoir imaginé une stratégie qui permet, à travers des rapports de force, de résoudre les problèmes. Et alors, quelle est l'analyse que faisait Gandhi ? C'était de dire si quelques Européens, Britanniques en l'occurrence, peuvent maintenir leur domination sur des millions d'Indiens, ce n'est pas tant grâce à la capacité de violence des Anglais que grâce à la capacité de résignation, de collaboration, de coopération des Indiens avec les institutions de l'Empire britannique. Et à partir de là, il a pu proposer une stratégie de rupture, de désobéissance civile aux lois injustes. Ce n'est pas la désobéissance civile qui crée le désordre, c'est l'obéissance servile des citoyens. Inscrite dans l'histoire. Alors, les religions, j'y viens, les religions qui prétendent exprimer la part spirituelle de l'homme ont malheureusement elles-mêmes cautionné l'idéologie de la violence. Elles ont elles-mêmes construit des doctrines et toutes les religions. Je ne parle pas ici des dogmes, je parle des doctrines éthiques. Toutes les religions ont construit des doctrines de la légitime défense, de la guerre juste, du meurtre juste. Elles ont voulu réconcilier dans une même rhétorique l'amour et la violence, la miséricorde et la violence. Alors qu'il est tout de même simple de comprendre qu'il y a une contradiction radicale, une antinomie essentielle entre la violence et l'amour, entre la violence et la miséricorde. Et alors, j'insiste sur le fait que non seulement les religions ont justifié la violence, mais elles ont ignoré la non-violence. Ce qui est encore plus grave, je dirais. Alors, si on revient à l'actualité, c'est vrai que après cette tragédie de Charlie Hebdo et quand j'ai vu sur Internet que Cabu était parmi les tués, j'avoue que j'ai été bouleversé. J'avais eu le connaissance plusieurs fois de rencontrer Cabu. Et j'ai mesuré en plus toute cette tragédie avec les autres journalistes, les policiers, ensuite avec les juifs qui ont été tués. Alors, les religions ont voulu se déclarer innocentes de ces meurtres. Elles ont voulu dire qu'elles étaient toutes des religions de paix. Il y a en quelque sorte un discours religieusement correct qui fait dire aux religions qu'elles enseignent la tolérance, le respect de l'autre, et que les intégrismes n'ont rien à voir avec leur orthodoxie. C'est un peu aller vite en besogne, justement. Et je crois au contraire qu'il faut essayer de comprendre comment les intégrismes se nourrissent des orthodoxies. Des orthodoxies au niveau des doctrines éthiques, mais aussi au niveau des textes fondateurs, notamment en ce qui concerne les événements actuels, notamment l'islam, mais aussi le christianisme. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a à la fois dans la Bible et dans le Coran, des versets qui, d'abord, nous donnent l'image même d'un Dieu violent. Je dirais quelque part que la question théologique fondamentale, c'est un peu une question d'orthographe. Comment écrivez-vous le Dieu des armées ? Il y a deux manières de l'écrire, des armées en deux mots. Et souvent, malheureusement, c'est ainsi que les copistes religieux ont de siècle en siècle reproduit la faute d'orthographe. Ou en un seul mot, le Dieu des armées. Alors, le vrai Dieu, lui, il ne me faut pas le désarmer. C'est pour ça, dans mon livre, j'ai mis « Désarmer les dieux » avec un petit « d ». Le vrai Dieu, lui, il n'est pas armé. Donc, il n'est pas besoin de le désarmer. Mais il y a tous les faux dieux, les dieux créés par les hommes, les dieux encolérés, les dieux vengeurs, les dieux violents, les dieux guerriers. Et je crois qu'il faut justement rompre avec toutes ces images. Il faut désarmer les dieux, désarmer les religions, désarmer les théologies. Je dirais que déjà Platon avait tout compris. Alors, dans la République, Platon fait remarquer que les enfants seront marqués toute leur vie par ce que les adultes leur racontent à propos des dieux. Laisserons-nous négligemment les enfants écouter les premières fables venues, forgées par les premiers venus, et recevoir dans leurs âmes, des opinions le plus souvent contraires à celles qu'ils doivent avoir, à notre avis, quand ils seront grands? Et la réponse est évidente, d'aucune manière nous ne le permettrons. Et alors, parmi les fables les plus nuisibles, selon Platon, il y a les fables menteuses que l'on rencontre aux enfants et qui, dit-il, représentent mal les dieux. C'est-à-dire qui représentent les dieux qui se tendent des pièges, qui se font la guerre entre eux, qui combattent entre eux. Et Platon dit, cela n'est pas vrai, il ne faut point raconter de telles fables si nous voulons persuader qu'il n'est pas bon que les citoyens se fassent eux-mêmes la guerre et se tendent des pièges. Donc, pour Platon, il est essentiel de toujours, je cite, « représenter Dieu tel qu'il est, qu'on le mette en scène dans l'épopée, la poésie lyrique ou la tragédie. Or, poursuit-il, Dieu n'est-il pas essentiellement bon? Et n'est-ce pas ainsi qu'il faut parler de lui ?» Alors, on pourrait évidemment multiplier les citations. Alors, il n'y a pas que cette représentation de Dieu dans la Bible et dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi cette représentation. Et la question, alors bien sûr, maintenant, les chrétiens ont pris quand même plus ou moins de recul par rapport à ces textes. Et puis, surtout, il y a eu Jésus qui, lui, a rompu avec ces textes de l'Ancien Testament. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je dis, donc c'est la loi du talion, et il récuse la loi du talion. Moi, je vous dis, alors, dans les Bibles, généralement, il est écrit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Bon, c'est absurde, évidemment, de ne pas résister aux méchants. Bien sûr qu'il faut résister aux méchants. Parfois, il est dit de ne pas résister au mal. Il faut résister au mal. En fait, si on va au grec, qui nous donne une version originale, il faut traduire, moi, je vous dis de ne pas résister au mal en imitant le méchant. Ah, Jésus devient intelligent et nous aussi. C'est vrai que la loi du talion, c'est l'imitation du méchant, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus demande de ne pas imiter le méchant. Alors, on a dit parfois, la loi du talion, c'est un grand progrès, car si on te crève un œil, tu n'en creves pas deux, mais tu n'en creves qu'un. Bon. Le problème, c'est aussi vie pour vie. Or, je ne peux pas tuer deux fois. Donc, si je tue une fois, on a déjà fait le malheur absolu. Non. Donc, je crois qu'il faut, en effet, récuser radicalement la loi du talion. Et Jésus a demandé à ses amis, de remettre leur épée au fourreau et aussi, de finalement, jusqu'à aimer leurs ennemis. Alors oui, je dis, Jésus a rompu avec l'Ancien Testament, mais les chrétiens, généralement, n'ont pas rompu. avec lui. Et n'oublions pas, par exemple, que l'Inquisition a été catholique avant d'être musulmane. Que les guerres des religions du XVIe siècle n'ont rien à envier aux guerres musulmanes. Bon. Donc, les chrétiens n'ont pas de leçons à donner aux autres. On a parfois des discours, y compris du pape actuel, qui récusent la violence et prêchent la fraternité. Mais entre les deux, il y a un grand vide. Et ce vide, c'est justement ce qui aurait dû être occupé par la non-violence. Car il faut créer les conditions de la fraternité. Alors, dans la tradition musulmane, il y a la tradition du djihad. Bon, alors, il faut faire attention, parce que d'abord, il y a le grand et le petit djihad. Le petit djihad peut être le combat armé, mais le grand djihad, c'est l'effort de tout homme pour maîtriser ses passions et arriver à pratiquer la bonté. Et il y a aussi dans le Coran des appels à pratiquer le bien, à être vainqueur par la force du bien. C'est dans le Coran tout cela aussi. Mais alors il y a aussi, et c'est ce que peuvent utiliser parfois les extrémistes, les islamistes, et généralement d'ailleurs quand on parle de la guerre, c'est pas le mot djihad qui est utilisé, c'est le terme qital, qui signifie tuer, combattre, c'est le combat armé qui est là et ça signifie tuer. Et alors, quand il est traduit « combat » avec la racine « qital », il s'agit de combat armé, combat meurtrier. Alors, je prends par exemple la sourate 4, verset 84, « Combat dans le chemin de Dieu, tu n'es responsable que de toi-même, encourage les croyants, Dieu arrêtera peut-être la violence des incrédules, Dieu est plus redoutable qu'eux dans sa violence, plus redoutable qu'eux dans son châtiment. » Lorsqu'il y a contradiction entre les versets qui prônent la tolérance, le respect, et les versets qui prônent la violence, alors la question c'est de savoir lequel abroge lequel. Alors il y a un sage qui a, musulman, qui a pensé qu'il fallait inverser le sens de l'abrogation. Il fallait que les versets qui préconisent le bien abroge les versets qui préconisent la violence. Vous connaissez peut-être son nom, c'est Mahmoud Mohamed Tah, un Soudanais. Alors, ça ne lui a pas réussi, il a été accusé d'apostasie et il a été pendu le 18 janvier 1985 à Khartoum, la capitale du Soudan. Bien. Alors, vous me direz, dans ce surcroît de violence et violence... en Afrique, avec Boko Haram, au Moyen-Orient et dans d'autres pays aussi, hein, on pourrait être un peu désespéré. Mais je pense aussi que, devant ce surcroît de violence, peut naître la conscience que, précisément, la violence n'est pas la solution, mais qu'elle est le problème. Et qu'il faut précisément, plus que jamais, réfléchir aux possibilités de la non-violence. Et je crois aussi que ce qui est nouveau, et c'est un signe d'espoir, c'est que des penseurs musulmans prennent la parole sur la place publique pour commencer à parler un peu comme Mahmoud Tah, en disant qu'il ne faut pas simplement s'innocenter du mal, mais qu'il faut aussi voir quelles sont les complicités des traditions religieuses avec les violents. Et un de ceux qui s'exprime le plus actuellement, c'est Khaled Bencher, qui par ailleurs est d'ailleurs celui qui présente l'émission sur l'islam à la télévision le dimanche matin. Et il dit ceci: la seule voie possible aujourd'hui est de sortir de la raison religieuse et s'affranchir des clôtures dogmatiques et doctrinales dans lesquelles l'islam s'est enferré. J'en appelle donc à l'usage de la raison émergente pour allier les ressources des sciences avec la soif de spiritualité et les besoins de transcendance. Je terminerai par une réflexion qui m'est venue un jour alors que je manifestais au pied du mur de Jérusalem, c'est que la violence nous invite à construire des murs et à détruire les ponts. Alors que la non-violence nous invite à déconstruire les murs et à construire des ponts. Mais la difficulté, c'est que l'architecture des ponts est beaucoup plus difficile que l'architecture des murs. L'architecte des ponts doit pouvoir réunir les pierres en vainquant la loi de la pesanteur. Et c'est seulement par cela que nous pourrons enseigner l'espérance à nos enfants. Je vous remercie de votre attention.
Radio FM+, réseau associatif régional en Languedoc-Roussillon, émettant sur Montpellier et Nîmes. Nous venons d'entendre Jean-Marie Muller, philosophe et animateur de mouvements non-violents, sur le thème « Religion, violence, non-violence ». Nous entrons maintenant dans le temps de débat qui a suivi son exposé. La première question porte sur les principes de communication non violente. C'est un label du psychologue américain Marshall Rosenberg, à savoir, approximativement, le fondement de la relation interpersonnelle de bienveillance dans l'empathie.
Alors, c'est vrai que la non-violence commence par les relations interpersonnelles. Au demeurant, je dirais que les spiritualités ont généralement insisté sur l'importance de créer avec l'autre des relations de respect. C'est surtout au niveau politique qu'il y a eu un dysfonctionnement. Mais en même temps, c'est important qu'on puisse davantage visualiser la non-violence dans les relations interpersonnelles, et c'est ce que fait la communication non-violente. Donc je crois qu'il y a à la fois, en effet, ce travail de réflexion, de maîtrise de soi, dans le cadre de la communication non-violente, et je pense en effet que Rosenberg a apporté des choses intéressantes, et donc, en même temps, travailler les problèmes de la stratégie. Ce sont deux dimensions qui sont tout à fait complémentaires et qui doivent être menées l'une avec l'autre. D'accord.
Deuxième question en substance. S'agit-il vraiment d'une question d'éducation si la violence est inhérente à l'homme, mais aussi la non-violence?
Alors, votre question me plaît, car elle me permet de faire une réponse, je crois, qui permet d'avancer dans le débat. Alors, c'est vrai que une des questions qu'on posait quand moi j'étais au lycée, c'était un bon sujet pour une mauvaise dissertation, est-ce que l'homme est violent par nature ou est-ce qu'il est bon par nature? Alors, on faisait une première partie, oui, l'homme est, est violent par nature. Une seconde partie, oui, l'homme est bon par nature. Puis on faisait une conclusion, il est un peu bon, un peu violent. Bon. Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Je crois, le sens de votre interprétation, c'est que l'homme est à la fois, par nature, incliné à la violence et disposé à la non-violence. Et c'est aussi un peu ce que nous laissons entendre Gandhi, il est incliné à la malveillance et disposé à la bienveillance. Et donc, ce n'est pas par nature que l'homme sera violent ou non-violent, c'est par liberté. C'est par liberté. Et chaque fois, il lui faudra faire le choix, en toute liberté, d'être violent ou d'être non-violent vis-à-vis de l'autre. Seulement, effectivement, je crois qu'il doit y avoir une éducation à la non-violence. C'est vrai que, je parlais tout à l'heure d'apprendre le conflit, déjà dans les écoles et pas seulement de l'histoire et la géographie. C'est vrai qu'il est important d'avoir une formation à la résolution non-violente des conflits. Et que cela n'existe pas, pratiquement. Alors, il y a une loi qui vient d'être passée. C'est mon ami Jean Persoeur qui l'a fait passer. sénateur du Loiret, qui permet aux enseignants d'avoir une formation à la résolution non-violente des conflits. Et les enseignants sont très demandeurs. Ils savent très bien que ce n'est pas par la violence, évidemment, qu'ils vont résoudre les problèmes de violence qu'ils ont dans leur école. Donc, une formation à la résolution non-violente des conflits. Alors, bon, ben, nous avons l'habitude de faire des formations, on sait faire, ce n'est pas un problème majeur. Précisément, si la nature offre à la fois la violence et la non-violence, la question c'est de savoir quelle est la part de notre culture, de notre nature, que nous allons cultiver. Or, jusqu'à présent, nous avons essentiellement cultivé justement la violence. Et on ne récolte que ce que l'on cultive, évidemment.
Bonsoir. On va reprendre l'image des deux enfants et des petits jouets. Dans notre société de consommation qui toujours a plus consommé, comment empêcher la violence induite par l'envie de voler, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Mais je crois que vous avez raison, et puis même s'il ne s'agit pas de voler, il s'agit de posséder et de demander aux parents de l'acheter.
De l'avoir,
absolument. Alors, le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, a mené une campagne il y a 3 ans pour interdire la publicité pour les jouets à la télévision. Je crois effectivement la possibilité, notamment des marques, n'est-ce pas, qui est faite pour les enfants, est une violence qui est faite aux enfants. Et c'est vrai que nous sommes dans une société de consommation. Alors, encore une fois, c'est vrai des enfants et des adultes, mais c'est particulièrement, je crois, nocif pour la formation et l'éducation des enfants. Et puis, d'autant plus que souvent, dans les jeux télévisés, par exemple, c'est pas la non-violence qui est la règle proposée. Donc il faudrait que, là aussi, il y ait une maîtrise, une vigilance par rapport à ce que les enfants regardent à la télévision et par rapport aussi à ce que les adultes regardent à la télévision. Et il y a tout aussi une recherche dans les jeux coopératifs, où il ne s'agit plus de vouloir gagner en écrasant l'autre, mais en étant gagnant-gagnant. Donc je crois qu'il faudrait en effet absolument qu'on puisse pratiquement éliminer toute cette publicité qui est faite pour les enfants. Et alors là aussi, c'est le rôle des adultes, des parents, d'être vigilants. Alors je sais bien, c'est beaucoup leur demander, mais ça leur est quand même demandé. Et puis, c'est toute la question aussi, justement, de la coopération entre les uns et les autres. Et il y a tellement... J'ai eu l'occasion de travailler avec des Irakiens, et un groupe irakien a obtenu du gouverneur de l'État de faire en sorte que les commerçants ne vendent plus ces saloperies de jouets en plastique qui représentent des armes. On leur a demandé d'échanger leurs jouets armés contre des jouets désarmés. Et je crois aussi que c'est très important, parce que l'enfant va naturellement jouer à tuer son voisin, s'il est... c'est un des drames de tous ces conflits territoriaux où les enfants sont impliqués dans cette culture de violence. Donc je crois que votre question était tout à fait essentielle.
Dans les événements là, que nous avons connus, on a beaucoup parlé de laïcité. Alors, quelle est la position des religions par rapport à la laïcité et le droit au blasphème? Quelle position prendre par rapport à ce droit au blasphème et que certains revendiquent au nom de la laïcité?
Oh, si le blasphème concerne Dieu, ça ne doit pas beaucoup le déranger. Donc moi, personnellement, le blasphème envers Dieu ne m'inquiète pas beaucoup. Mais ce qui était en cause dans les caricatures, c'était, au-delà du blasphème envers Dieu, c'était, non pas peut-être le blasphème, mais des caricatures qui stigmatisaient le prophète. Alors, je dois vous dire que je parlais de mon traumatisme en apprenant la mort de mon ami Cabu. J'étais à Paris le 15 janvier. Mais ça n'est pas pour autant que je suis Charlie jusqu'au bout. Je ne suis pas jusqu'au bout, je ne peux pas le suivre jusqu'au bout. Et alors, il se trouve que j'étais en Israël lorsqu'en 2006, lorsqu'ont été publiées les caricatures danoises en France. D'abord par François et ensuite par Charlie Hebdo. J'étais invité à aller à Gaza par mon ami Ziad Medouk, pour animer une session de formation à l'université française, à l'université de Gaza. Et j'avais, lors d'un séjour précédent en Israël, obtenu l'assurance que le consul me donnerait tous les feux verts pour me rendre à Gaza. Quand je suis arrivé le 2 février, il était hors de question que j'aille à Gaza à cause des caricatures. Et il y avait eu des communiqués qui disaient que tout Danois et tout Français étaient une cible. Alors, ça fait que j'ai réfléchi sur ces caricatures avec un certain décentrement par rapport à la réflexion qui s'est faite en France et en Occident, où on a simplement voulu mettre en place la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, rassurez-vous, elle est imprescriptible, mais pour ma part, elle n'est pas un absolu. Je crois qu'il y a des limites à la liberté d'expression dans le respect des autres. Il y a des représentations du prophète sur lesquelles je n'insisterai pas pour les détailler, qui ne me semble pas respectueuse de ceux qui considèrent le prophète comme le prophète. Et alors, évidemment, on a, dans un premier temps, évité de poser ce problème-là. En aucun cas, ça ne peut évidemment commencer à expliquer ou à justifier quoi que ce soit dans la violence subie par les journalistes de Charlie Hebdo. Mais je pense qu'il y a des limites à la liberté d'expression et que, au-delà de ces limites, eh bien, d'autant plus que, je disais tout à l'heure, il faut avoir un débat difficile avec nos amis musulmans. Un débat difficile. Et que ces caricatures-là, elles vont rendre ce débat encore plus difficile. Donc, je dirais, c'est quelque part inintelligent et irresponsable de multiplier ces caricatures qui stigmatisent le prophète. Donc je pense, de ce point de vue-là, je suis Charlie lorsque les journalistes de Charlie sont tués, je ne les suis pas lorsqu'ils publient certaines caricatures. Alors ceci dit, il faut aussi nuancer le jugement par rapport à telle ou telle caricature, qui ne sont pas toutes de la même nature. Parce que alors aussi, on a le droit de rire, mais moi ça ne fait pas rire. Le rire présuppose que l'objet du rire soit intelligent. Et il y a des caricatures qui vraiment ne sont pas du tout drôles.
Je voudrais parler de la laïcité. Oui. Quand je suis allée en Tunisie, j'avais interviewé des Tunisiens sur la Révolution et on a parlé un moment de laïcité. Et il m'a dit nous, on est pour la laïcité, mais pas la laïcité à la française. Plutôt la laïcité à l'anglo-saxonne. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de notre laïcité et du fait qu'on ne veut absolument pas en parler et qui fait qu'on ne parle pas du tout, on ne doit pas parler des religions et que la violence, elle vient pas de cette méconnaissance justement des uns des autres et de ces lois sur la laïcité qui n'ont fait que amplifier encore plus cette violence.
Alors, il semblerait que dans le débat actuel, qui quand même va avoir une certaine importance et qui a une certaine richesse, il y a précisément l'idée qui semble émerger qu'il faut parler des religions dans les écoles. Maintenant, ce n'est pas simple. Bon, j'étais il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, j'étais logé par un professeur de religion, puisqu'à Strasbourg, on enseigne la religion dans les écoles. C'est pas simple. Et alors, la laïcité, ça ne peut pas être l'ignorance des religions. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord, quand même. Bon. Je suis profondément laïque, hein, rassurez-vous. Bon. Enfin, si jamais vous vous en doutiez. Mais seulement, je crois que la laïcité, c'est l'expression des différentes communautés spirituelles et philosophiques de la société civile. Alors, les communautés religieuses, à ce titre-là, peuvent pouvoir avoir la liberté de s'exprimer. Alors, maintenant, l'enseignement des religions, vous dites, ça va permettre aussi de mieux connaître. Seulement, là aussi, comment enseigner les religions, par exemple, quand je soulignais les contradictions? Comment enseigner ces versets guerriers, aussi bien du Coran que de l'Ancien Testament, hein? Il faudra que l'enseignant lui-même fasse des choix. Il n'y a pas un enseignement neutre, il n'y a pas un enseignement comme cela qui peut s'imposer comme on enseigne les mathématiques. Donc, il y aura forcément des difficultés. Alors, il faut pouvoir parler, je crois aussi, c'est ça qui est important, les enfants en entendent parler en famille. Il faut en parler à l'école, certains l'ont fait d'ailleurs. Mes amis enseignants ont dit « je n'ai pas fait une minute de silence, mais une demi-heure de parole ». Il ne m'a pas dit comment la demi-heure s'était passée, mais... voilà, je dirais, il faut là une réflexion qui se fasse. On ne va pas enseigner des catéchismes, on ne va pas enseigner des dogmes, on ne va pas enseigner... Bon, donc enseigner des éléments... avec justement, étant donné les contradictions qu'il y a dans ces religions, il y a une difficulté. Il faut là qu'il y ait un travail de réflexion qui se fasse dans le dialogue avec l'ensemble des religions, mais ça ne me paraît pas aussi simple que ça, si vous voulez.
Le temps d'une prière, je m'évade et je m'exile au paradis. Je vais rendre visite à ceux qui sont déjà partis. Tout est calme, c'est ce qui me fait comprendre que je suis plus sur terre. J'ai traversé le globe et les sept sphères. Et là je te vois assise par terre, reposée en paix, nager dans les rivières de foi éternelle. Je te vois, t'as le sourire. Je vois aussi tes cheveux noirs dépasser légèrement ton voile blanc. Je réalise que la mort t'a libéré. T'as retrouvé ton mari, t'as retrouvé ta fierté. Dieu t'a guéri, les maladies t'ont quitté. Dieu t'a guéri après t'avoir éprouvé. En bas, quand on parle de toi, ça nous console. Hein.
Moi, je pense profondément au problème de religion. Ça, c'est lié à des chrétiens comme des musulmans. Il n'y a pas eu le nord depuis 40 ans, vous voyez. Et dans beaucoup d'associations, de mouvements, etc. Je pense que si on parle que de la religion dans cette affaire, et c'est bien d'en parler, hein. Moi, je suis tout ce qui a été dit, je l'approuve complètement. Mon épouse est une ancienne enseignante, qui fait du soutien scolaire à la Paix du Nord, avec des amis qui sont voilés, etc. Je pense que si on ne parle pas de l'injustice en même temps, c'est-à-dire dans notre société, qui grandit, c'est la cause. Il faut s'adresser aux causes. En même temps, on parle du problème de religion. Et si on ne fait pas des choses ensemble, quelle que soit notre religion ou notre athéisme, ou etc., etc., pour combattre cette injustice au niveau de notre propre pays, dans notre propre quartier, dans notre propre ville, et au niveau mondial. Et il faut chercher aussi quand même les responsables. Je pense que Gandhi, quand il a fait ce travail, il a eu une profonde connaissance du colonialisme anglais, etc., etc. Et il est arrivé par la non-violence à mobiliser les gens. Mais il avait une connaissance géopolitique. Et il faut chercher les causes de cela. On ne peut pas faire de la politique partidaire, mais le géopolitique actuellement. Qu'est-ce qu'on apprend, sauf si on fait des recherches, sur la réalité des responsables, notamment au Moyen-Orient, pour rappeler la guerre en Irak, les gens qui étaient contre cette guerre dont je faisais partie, avec des milliers de gens, a été une des causes, pas c'est la seule, mais de la pagaille, pour ne pas dire la mot plus grand, de ce qui se passe maintenant. Le Hidi, la Neige, etc., a eu ses prémices là-dedans. Partout où il y a de l'injustice qui grandit, il y a la violence, non, parce que voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire en parallèle. Il ne s'agit pas, c'est multiple, c'est multifacette, etc., mais il faut traiter, pousser les citoyens et les citoyennes à
s'intéresser à la géopolitique et à voir quelles sont les véritables responsabilités, y compris avec notre propre gouvernement.
Alors, heureusement qu'on n'a pas terminé avant que vous puissiez prendre la parole. Parce que je crois que vous avez souligné un élément essentiel sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, en effet. Je crois que le problème de la violence est là essentiellement des causes politiques qui s'inscrivent dans les injustices des sociétés ici et là-bas. Et souvent, le lien est fait par les jeunes entre les injustices ici et là-bas. Et je crois qu'il faut en effet que nous puissions les resituer dans l'analyse géopolitique de ces conflits, avec aussi voir toute la responsabilité des Occidentaux. Et nous payons des additions quelque part. Bon. Le problème du colonialisme, c'est quand même pas quelque chose qui a été inventé par les colonisés. Donc je crois qu'il y aurait tout ce travail de relecture à faire, absolument, absolument, de relecture de la genèse des conflits politiques. Dire qu'il faut faire la guerre au terrorisme, c'est une formule un peu rapide. On ne va pas tuer les terroristes et les mesures policières qui peuvent être nécessaires à certains moments et militaires ne permettront pas une solution du conflit. Il n'y aura pas de solution militaire des conflits. Donc il faut inventer des solutions politiques. Et non pas au niveau des grands principes, mais au niveau des situations concrètes. Parfois, justement, au niveau aussi des interventions, de médiation, de résolution non violente des conflits, dans ce qu'on appelle nos quartiers, comme dans les territoires internationaux. Alors, bon, il y a des choses qui se font, on ne part pas de rien, mais ça n'est pas à la mesure de l'enjeu des choses. Je voudrais ajouter une réflexion, alors, répondre à une question qui n'a pas été posée. C'est qu'il y a une certitude, c'est qu'on ne va pas lutter contre le terrorisme par l'arme nucléaire. Or, l'arme nucléaire est au centre de nos dispositifs militaires. On m'a dit, je n'ai pas entendu, que cet après-midi, le président Hollande avait rappelé l'importance de l'arme nucléaire dans le dispositif de défense de la France. C'est une absurdité absolue, n'est-ce pas? Il y a ce que j'appelle l'impensabilité de la mise en action de l'arme nucléaire. À aucun moment, dans aucun scénario, on pourra laisser croire qu'on peut utiliser l'arme nucléaire qui ferait des millions et des millions de morts, qui saccagerait l'environnement sur des territoires entiers, il y a là une irresponsabilité. Alors, on dit l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. C'est plus compliqué que ça, parce que dans la théorie française, y compris Sarkozy et Hollande, il y a ce qu'on appelle des frappes d'avertissement. Bon, donc c'est bien l'emploi. Et déjà, ces frappes d'avertissement, elles sont totalement impensables. Et puis, quelque part, ça nous coûte cher, cette arme nucléaire. Ça nous coûte quand même plusieurs milliards. Bon. Alors, il y a, soi-disant, un traité de non-prolifération. Il va y avoir une rencontre qui se fera encore dans les mois prochains. Le problème, c'est que le traité de non-prolifération interdit aux pays non dotés de posséder l'arme nucléaire, mais ne fait aux pays dotés que l'obligation théorique de négocier le désarmement. Or, depuis que le traité de non-prolifération est signé, il n'y a aucune négociation. On peut être sûr que le prochain sommet du TNP sera un échec. À la télévision, j'ai vu il y a deux jours, on n'en a pas fait un grand événement, mais Obama aurait planifié une modernisation de l'arsenal nucléaire américain pour les 30 ans qui viennent, avec des milliards de dollars. Donc, dire... Alors, évidemment, tout le monde est pour le désarmement mondial, bien sûr, mais il est hors de question, il est hors d'atteinte, il est... Bon. Alors, là aussi, les religions, est-ce qu'elles n'ont pas quelque chose à dire d'un point de vue spirituel de la société civile pour dire qu'il y a une contradiction entre la spiritualité et l'arme nucléaire? Il ne faut pas être un grand théologien pour le comprendre. Bon, ça devrait être dans la deuxième leçon de catéchisme. Bon. Or, les évêques français ne se sont prononcés sur la dissuasion nucléaire en 85 que pour la justifier. Et jusqu'à présent, nous avons parfois interpellé, dans le cadre de la société civile, encore une fois, les évêques qui ont refusé d'intervenir. Alors, c'est quand même dommageable que la dissuasion nucléaire n'intéresse les évêques que lorsqu'il s'agit de la justifier. Alors, rappelez-vous, il y avait un évêque qui avait refusé, c'était Gaillot. Mais on l'a gaillotiné, c'est-à-dire qu'on l'a, exclu de l'Assemblée des évêques. Alors, je crois que le MAN, actuellement, continue à travailler. Il y a même peut-être des pétitions à signer sur la table pour demander le désarmement unilatéral de la France. Car l'essence même de l'exigence, aussi bien éthique, politique que stratégique, c'est l'unilatéralité. Je n'ai pas à attendre que l'autre fasse le bien pour commencer à ne plus faire le mal. Bon. Donc je crois qu'il y a là aussi, dans l'ensemble de la société civile, dans le cadre de la plus stricte laïcité, il devrait y avoir un consensus citoyen. On ne va pas attendre des chefs d'État qui décident l'armement nucléaire. Mais en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. C'est donc au peuple d'intimer l'ordre aux États de renoncer à l'armement nucléaire. J'aurais regretté, ça aurait resté une des questions qui m'ont empêché de dormir, si je ne me l'étais pas posé à moi-même.
Sur le réseau FM+, antenne de Montpellier, nous venons d'entendre Jean-Marie Muller du Mouvement pour une alternative non violente dans une soirée organisée à Montpellier par cet organisme. Jean-Marie Muller vient d'écrire un livre « Désarmer les dieux », d'où le thème de la rencontre « Religion, violence, non-violence ». Comment envisager l'action non violente quand la violence se réclame d'impératifs religieux. Au revoir, chers auditeurs, et à bientôt sur FM+, pour une prochaine rencontre.